parole du jour avec le Père Willem.
Nous croyons que Dieu est tendresse, et la tendresse de Dieu est originelle. Oui, si le mot tendresse est assez rare dans la Bible, ses manifestations, en revanche, sont nombreuses. Mais ne sont-elles pas plutôt le privilège du Nouveau Testament ? Est-ce seulement le Christ qui viendrait enfin manifester la tendresse de Dieu ? Il faut toujours se garder d'opposer l'Ancien et le Nouveau Testament, surtout avec cette idée que l'Ancien Testament nous parle d'un Dieu de la loi et le Nouveau du Dieu de l'amour, que le Christ viendrait un jour pour révéler l'amour, presque pour corriger les excès d'un Dieu vengeur, d'un Dieu exigeant, capable de colère et terrible dans sa toute-puissance. Fondamentalement, Dieu est un. Il est le même des premières lignes de la Bible à ses dernières. Son dessein d'amour se déploie au long de l'histoire humaine et il n'a pas changé avec le temps. C'est simplement l'intelligence que les hommes ont de lui qui s'affine avec les siècles et lui aussi qui s'engage de plus en plus pédagogiquement, pourrait-on dire, à mesure que l'humanité avance en âge et dans son histoire. Lui qui révèle plus intimement aux hommes son vrai visage. Mais il est tendre du début à la fin, si j'ose dire. Les hommes ont seulement besoin de temps pour le concevoir et finalement pour l'admettre. Car un Dieu tendre, cela bouleverse un peu la petite idée qu'on aime se faire de lui. On préfère l'assigner à une toute-puissance jupitérienne et un rôle de juge plus classique, commun à bien des religions. Mais le Dieu de la Bible est tout autre. Dieu manifeste alors sa tendresse dès l'Ancien Testament, même dès la Genèse. On a fini par croire que c'est le péché originel dont on a insisté sur la culpabilité de l'homme et sur la malédiction qui a suivi, alors que le péché dit originel a un sens, n'est qu'un accident de l'histoire humaine. Il n'est pas premier. L'histoire ne commence pas avec lui. En revanche, la tendresse de Dieu, elle se devine dès l'origine. C'est plutôt elle qui est originelle. Ainsi, avant même la création, la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. C'était en quelque sorte la nuit sans lumière. On a beaucoup commenté ce souffle de Dieu qui plane, ce souffle qu'il va ensuite insuffler dans les narines d'Adam. La théologie a raison d'y voir une possible inscription discrète de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, comme déjà prêt à se répandre sur les largeurs du monde, quelque chose de mystérieusement dynamique, d'intensément présent, que contient en creux, en puissance, toutes les circulations d'amour entre les personnes de la Trinité. En tout cas, l'expression simple et imagée d'une intentionnalité à l'égard de ce monde à créer, d'un désir, d'un élan d'amour déjà en puissance. C'est la tendresse de Dieu qui semble se cacher dans ce souffle qui n'est pas d'abord du vent, pire du vide, une simple réalité physique en somme, purement contingente. Ce souffle est l'image de Dieu lui-même, de son engagement latent, de sa tendresse encore très repliée sur elle-même. il faudra des centaines de pages à la Bible pour déplier toutes les harmoniques de ce qui est secrètement contenu dans ce petit mot inaugural où vibre une tendresse qui est la clé, donne la note. En outre, ce souffle de Dieu ne plane pas sur les eaux à la manière d'un drone. Planer, c'est ici, sur les grandes largeurs d'un monde à venir, déployer de l'amour en attente. Dès les toutes premières lignes de la Bible, on pressent ainsi la tendresse de Dieu qui déjà recouvre originellement le monde et enveloppe toute chose de son vêtement de douceur aimante. Significativement, en son seuil, la Bible propose deux récits de la création assez contradictoires selon la façon dont les choses se sont passées, mais très complémentaires pour nous livrer ce que Dieu a en tête et surtout dans le cœur. Deux récits qui exhibent ainsi leurs contradictions, comme pour exiger une interprétation fine, une écoute attentive, plutôt qu'une lecture littérale, voire fondamentaliste. Dans le premier récit, l'homme est créé le sixième jour pour couronner la création. Dans ce premier récit, en filigrane, on voit bien la tendresse de Dieu qui affleure dans la façon dont Dieu, pour la création de l'homme, se parle. Il se parle soudain lui-même. Un bel impératif à la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image. Cela tranche avec les cinq paroles créatrices précédentes, marquées par la même tournure, que la lumière soit. On a souvent interprété le surgissement de ce pluriel comme une présence cachée de la Trinité. On y voit encore, autre belle interprétation, une invitation originelle à associer l'homme lui-même à l'accomplissement de sa propre création en devenir et à le responsabiliser. Discrète préfiguration de l'alliance entre Dieu et les hommes. Ce qui est sûr, c'est que pour la création de l'homme, Dieu semble quitter sa posture de toute puissance, de thaumaturge, et il cherche soudain, comme le ton d'une confidence, la manifestation à peine retenue, qu'il se passe là quelque chose d'autre. On n'est plus dans une parole de création pure, que la lumière soit. On entre dans l'intimité d'une résolution qui garderait trace d'une quasi-émotion, d'un moment de suspense, dans l'ordonnancement des actes créateurs, pour considérer et révéler un engagement personnel, un lien particulier avec celui qui crée, point d'orgue de toute la création. Dans le second récit de la Genèse, la création de l'homme n'arrive pas au terme de la semaine, mais d'emblée, elle a lieu, sinon le premier jour, du moins le jour où le Seigneur fit la terre et le ciel. Récit du déroulement exact des faits dirait, oui, il faut savoir. Il faut savoir. Le premier ou le dernier jour, s'il appartient aux scientifiques de décrire scientifiquement la création du monde, comment les choses se sont-elles passées, il appartient en revanche à la Bible de nous dire leur pourquoi. Que l'homme soit créé, pourquoi ? Pourquoi est-il créé le premier et le dernier jour ? C'est contradictoire du point de vue du comment, mais pas du point de vue du pourquoi. Dans le cœur de Dieu, l'homme est au centre de projet. Il en est donc le point de départ et le terme. Il n'est ainsi pas qu'un élément parmi d'autres dans le cosmos. Il faut deux récits, comme en stéréo, pour bien faire entendre tout cela. Comme ce souffle de Dieu qui planait sur les eaux, Dieu couvre son idée et laisse ici entendre avec quelle tendresse il place l'homme au milieu d'une création tout entière, ordonnée à sa croissance.